Moi, je voulais vous proposer de passer en fait à... Vous connaissez Joséphine Baker ?
Oui.
Ah bah c'est étonnant, c'est pas le cas de tout le monde. Je vous laisse écouter. Bah voilà, on va écouter en fait un micro-pavé de Ludo qui a interviewé des gens sur le festival par rapport justement à Joséphine Baker. Savoir s'ils la connaissent, parce qu'en fait je m'étais posé la question en... Mais voilà, justement, je me demandais quel était l'héritage de Joséphine Baker. Est-ce qu'aujourd'hui, elle était encore une image, une sorte d'icône de l'émancipation de la femme noire? Et donc, on va voir ça tout au long de la suite.
Micro-pavé. Micro-pavé.
Est-ce que tu connais Joséphine Baker ?
Non.
Non, mais le nom me dit quelque chose.
Si je te parle de Joséphine Baker, tu vois qui c'est ?
Absolument pas.
Bien sûr, ouais, je connais Joséphine Baker. J'ai regardé une émission il y a longtemps sur elle et fantastique.
Est-ce que tu connais Joséphine Baker ?
Non. J'ai jamais entendu parler.
Ah, alors là, pas du tout.
Oui. C'est une... Attendez, je crois que c'est une nord-américaine quand même, elle n'est pas africaine, enfin, elle est afro-américaine. Et entre autres, elle s'est battue pour l'égalité raciale pour la chanson. Elle a connu trop peu de succès aux États-Unis, donc elle est venue en France, où là, elle a connu le succès. Et alors, elle a aussi utilisé ses ressources pour l'aide à l'enfance oubliée, abandonnée. Elle a elle-même adopté plein d'enfants, etc. Voilà. Il y a beaucoup plus à dire, mais...
Alors, 5 secondes. Voilà, ça y est, les 5 secondes, ça passe super vite. Voilà, donc, vous avez pu entendre que tout le monde ne connaît pas Joséphine Baker. Et vous êtes peut-être dans le cas, vous, derrière votre poste de radio. Et voilà, moi j'ai interviewé Rokia qui est une DJ bruxelloise, elle est belge, elle a mon âge, donc on va pas le dire. Elle est jeune.
Elle est jeune, ouais.
Et voilà, donc moi je lui ai posé la question de savoir, Joséphine Baker, c'est qui, c'est quoi et quel est son héritage aujourd'hui en tant que femme et peut-être femme émancipatrice, comme image de l'émancipation de la femme africaine. Je vous propose d'écouter, on parlera à chaque fois de Joséphine Baker en parallèle. Voilà, donc Rokia, Joséphine Baker, toi, ça t'évoque qui, quoi ?
Ben les bananes. On va rester dans les stéréotypes. Mais moi, en fait, elle m'évoque beaucoup plus que que toute son histoire, qui est, à mon avis, moins connue que Angela Davis, par exemple, pour la communauté afrodescendante, ou pour Taubira, par exemple, aussi. Mais il faut voir à quelle génération on parle. Moi, je dirais que peut-être celle, la mienne, connaît Joséphine Baker, mais mes enfants, qui est la deuxième génération, voire même ceux de la troisième génération, c'est un personnage qu'ils ne connaissent absolument pas, quoi. Mais moi, j'ai grandi avec ces images, par exemple, associées évidemment à la Revue Nègre. Évidemment, comme il n'y avait pas énormément non plus de visages noirs à l'écran...
C'est dans quelle période à ce moment-là ?
Dans mon contexte, je dirais adolescence, préadolescence. Moi, je l'ai connu à ce moment-là. Donc, je devais avoir années 80, je devais avoir 10-12 ans. Et moi, mes personnages favoris, c'était James Dean, comme dit ma mère, James Dean.
Pas mal à 10 ans quand même.
Ah oui, j'étais amoureuse de James Dean. J'avais des posters. C'était assez blanc mes posters, tu vois, jusqu'au moment où apparaît Michael Jackson, comme dirait ma mère, Michael Jackasson.
Non.
Ouais. Tu connais Michael Jackasson? J'ai fait oui, oui, Michael. Et donc, et puis après, voilà, après une réelle conscience noire, parce que voilà, j'ai vécu aussi. Pas par rapport à la fratrie, pas par rapport à mon frère qui m'a apporté beaucoup de choses, mais plutôt le cercle de femmes qui sont plutôt mes cousines, qui elles m'ont conscientisée plutôt à écouter et à m'intéresser à la musique afro-américaine et surtout africaine, quoi, via mon père.
J'admirais dans les magasins le teint pâle de poupées blondes. J'aurais voulu le ressembler et je disais l'air accablé, me croyant tout seul le brune au monde. Je voudrais être blanche, pour moi quel bonheur. Si mes seins, mes hanches changent de couleur, les Parisiens à juin le pain se faisaient gloire, au soleil d'exposer leur rein pour être noir. Moi pour être blanche, j'allais me roulant parmi les avalanches en haut du Mont Blanc. Ce stratagème d'un azéro, j'avais de l'air dans la crème d'un petit de vous y penche, garderait sa couleur. Au soleil, c'est par l'extérieur qu'il en se dort. Moi, c'est la flamme de mon cœur qui m'en colore. Et si ma figure, mon corps s'embrunit, c'est parce que la nature me voulait ainsi. Mais je suis franche, dites-moi, monsieur, faut-il que je sois blanche pour vous faire mieux?
Et voilà donc le premier extrait de l'interview de Rokia. Voilà, Joséphine Baker, donc une ceinture de banane et la revue nègre, ça la résume, mais ça la résume pas tout à fait. Il faut savoir qu'elle est née en 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, et que très tôt, elle doit travailler. Alors elle va travailler comme quoi? Non, comme domestique dans des familles blanches aisées, évidemment. Mais elle rêve en effet de devenir danseuse, de faire du théâtre, du spectacle. Alors très tôt, elle va se marier à 13 ans. Très tôt, elle va divorcer aussi parce qu'elle va suivre une troupe d'artistes itinérants qui vont l'emmener à 16 ans. Elle va se retrouver à Broadway, elle va tenter Broadway. Et là, elle va trouver une place dans une comédie musicale qui s'appelle Shuffle Along, qui est donc un spectacle à la distribution entièrement noire, ce qui est quand même assez, assez étonnant pour l'époque. Et là, en fait, elle va briller. Et elle va se faire remarquer par deux Américains dont le mari en fait veut lancer la revue nègre à Paris et va la prendre avec dans les bagages, va la débarquer à Paris et c'est là qu'elle va commencer donc par devenir donc la vedette de la revue nègre, une revue qui va entre autres permettre au jazz d'émerger en France. On poursuit peut-être avec Rokia.
Et donc voilà, Josephine Baker, pour moi, c'était une affiche que j'avais vue à mon avis à Paris, une expo sur les affiches que j'avais vue aussi ici à Bruxelles, qui a été faite à partir des années 90, mais je ne sais plus exactement le titre de cette expo, où il y avait essentiellement... des affiches publicitaires qui montraient les Noirs dans leur plus simple apparat et aussi en tant que serviteurs, donc les affiches Banania, ancrées dans l'inconscient collectif, les bananes de Josephine Baker, puisque voilà, la revue a fort marché à l'époque, Revue Nègre, bon, moi, nous, on n'y était pas, on n'était pas nés, donc...
C'était un peu en 1925,
voilà, cette expo qui... Enfin, cette revue qui dure de septembre à décembre, si je ne me trompe pas, et qui après fait une tournée à travers l'Europe, quoi. Donc Josephine Baker, pour moi, c'était voilà, j'avais vu un film aussi qui retraçait sa vie et qui racontait qu'elle avait eu 10 enfants, qu'elle avait adopté
sa tribu arc-en-ciel,
sa tribu, et qu'elle vivait dans un château, et moi je la considérais comme une princesse nubienne, quoi, tu vois, mais sans réellement bien comprendre ce à quoi elle a contribué et oui, par rapport à toutes ces images qui véhiculent et qui sont encore ancrées, comme je te le disais, dans l'inconscient collectif, quoi, et qui dénotent que des clichés d'orientalisme, de sexisme, et donc c'est vraiment le corps noir dans toute sa nudité. Et tout le comment on dit ça, et toute l'imagerie qu'il y a derrière, évidemment, de la colonisation, en fait. Et donc c'est voilà, mais ça, on le comprend beaucoup plus tard, évidemment, quand on s'instruit, quand on rencontre des gens, et voilà, quand on se radicalise aussi, quoi.
On se radicalise à ce point-là ?
Ouais, parce qu'on, ce qu'on aime au début, et ben, on ne l'aime plus après, puisque les contextes changent. On étudie le contexte dans lequel ça a été fait, et puis on essaie d'analyser, de transposer par rapport à, tu vois, le passé, le présent, et essayer de voir est-ce qu'on peut reproduire ce type d'image à présent. Moi, je trouve que non. Mais Couleur Café a suivi par rapport à ces affiches. C'était dans le style, justement, de ce qu'on combat actuellement aujourd'hui, et d'abattre, de déconstruire tous ces clichés. Et Couleur Café a véhiculé, au travers de ces affiches, énormément des clichés sexistes et aussi racistes. Ça, il faut le dire.
Alors voilà, donc Josephine Baker remporte un énorme succès avec la Revue Nègre, un succès qui va s'inscrire dans la vision bienveillante et condescendante envers le noir ou envers les colonisés en général. Il faut savoir quand même qu'avant cette époque, le noir était quand même considéré comme un sauvage qu'il fallait domestiquer, évidemment, entre guillemets. Donc là, la vision change. Et donc, Josephine Baker va séduire et elle va vite être considérée comme la pionnière de la Renaissance nègre. Alors, c'est quoi la Renaissance nègre ? Parce que là, j'ai quand même cherché un peu en me disant, c'est quoi ? What is that for a bazar, comme on dit à Bruxelles ? Et donc, c'est un mélange de jazz, de dadaïsme, d'art nègre, comme on le disait à l'époque, et de cubisme. C'est un mouvement qui est assez à la mode à l'époque, et elle en devient un peu l'égérie. Josephine Baker devient à la mode. Et là, avant que tout le monde ne bondisse, on va continuer avec Rokia, qui va nous parler, là, de déconstruction.
L'imagerie, en tout cas... On voit beaucoup plus en France quand tu te balades du côté des quais, de la Seine, rive gauche, rive droite, et que tu achètes des bouquins et que tu vois des affiches. Les affiches de la Revue Nègre sont toujours présentes. C'est une imagerie qui est toujours là.
C'est important de pouvoir continuer à montrer ces images-là.
Oui, bien sûr. C'est...
Ou c'est offensant, quelque part.
Hein ?
Ou alors, d'un côté...
Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas pour qu'on cache. Je ne suis pas pour qu'on démonte le socle de Léopold II, par exemple. Moi, je trouve que... Voilà,
Botanique.
Il se doit d'exister. Il est là. Et il faut déconstruire en instruisant. en racontant le contexte. C'est pas en enlevant Tintin au Congo, voilà, qu'on va balayer ce qu'était Tintin au Congo. C'est en le lisant justement que après on peut l'analyser et se dire, ben voilà, comment contextuellement dans les années de guerre, voilà comment était perçu le noir. Et ça montre bien ces clichés-là. C'est la même époque que Joséphine Baker, mm-hmm. peut-être même un peu avant.
Plutôt un peu après.
Après.
Mais pas très longtemps.
Mais pas très longtemps. Et cette imagerie est toujours là. Donc, elle a été conditionnée pour expliquer la colonisation. Cette image-là a été fabriquée. C'est des images de propagande. Donc voilà, elles sont là. Et moi, je pense qu'il faut justement travailler avec. Exactement ce que je fais avec les musées décoloniaux. Quand je monte une expo de son sur des images... anthropométrique. Je pense que voilà, ces images-là ne doivent pas être cachées dans les musées, puisque moi je travaille avec des archives sonores et des archives photographiques. Et ces images-là sont très, très dures à vivre, à regarder. Mais je pense qu'il faut les montrer, parce que si on ne les voit pas, on ne peut pas déconstruire. On aura beau dire, on ne nous croira que si on voit. Et c'est là qu'on peut avoir de l'empathie et à ce moment-là se mettre à la place de l'autre pour essayer de déconstruire. Si on ne se met pas dans la place de l'autre, on ne pourra pas déconstruire.
Tu montres ces images-là, ou Tintin au Congo par exemple, à tes enfants ?
Oui, je les utilise dans les cours que je donne aussi. Mais tu déconstruis avec. Et c'est ça qui est génial, c'est tu poses des questions, il y a des documents pédagogiques qui sont très très bien faits, où on essaie d'analyser le contexte et d'expliquer le contexte dans lequel ces images, ces planches ont été faites. On explique la vie de Hergé aussi, et puis après on essaie de récolter leur avis par rapport à transposer le passé au présent et actuellement, comment est-ce que le racisme est divulgué, et comment est-ce qu'on perçoit encore ce peuple, ce continent Afrique et les Africains avec des images qui sont ancrées, quoi. Mm-hmm. Malheureusement, moi je pense que si on les enlève, elles ne vont pas s'enlever dans la tête des gens, puisque ça a vraiment été des images de propagande. Exactement la même chose, c'est la même chose, le même procédé que les Allemands ont fait pour d'écrire les Juifs et par des tracts qui étaient jetés des avions dans les villes allemandes et ailleurs pour dire que l'ennemi c'est le Juif ou l'ennemi c'est le communiste et regarder le Juif aussi avec des schémas anthropométriques, le nez crochu, le nez assez long, ben voilà, c'est des clichés qui restent dans l'inconscient collectif. Quand on voit, pour taguer, pour faire une blague avec sur des copains juifs, moi, ou des amis juifs, il m'est déjà arrivé d'entendre, ah ouais, ça se voit que t'es juif, hein, parce que, ça se voit comment, à part ton nez, c'est resté. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est là où il faut reprendre systématiquement, c'est là où ça devient fatigant. Fatigant pour nous, première génération, et donc on passe le relais aussi à la deuxième génération. Mais mes enfants sont métis, mais là c'est encore une autre vision d'eux-mêmes par rapport à leurs identités, puisqu'ils en ont aussi de multiples. Moi aussi j'en ai des multiples, même si je suis noire et que je suis née ici, je me définis aussi en tant que française, parce que j'ai une culture française, j'ai une culture belge, j'ai une culture ivoirienne. J'ai une culture malienne, donc je ne suis pas qu'une seule. Mon être est multiple. Et voilà, ça me fait penser aux identités multiples de Malouf, quoi. Donc, c'est un combat perpétuel. Et je pense qu'elle a dû, Joséphine Baker, se battre par rapport à ça, essayer de savoir où est-ce que je vais me situer. Mais en même temps, en usant de cette, de, voilà, de, de, elle a fait ce qu'elle a pu à l'époque, à l'époque qui lui était donnée. Mais voilà, pour moi, elle ne représente pas tout le combat qu'a fait Martin Luther King. Elle
oui,
ne
voilà.
représente pas. Elle n'a pas marqué. Elle n'a pas transcendé ou transformé ou ajouté une pierre à l'édifice de la. De la déconstruction, tu vois.
Voilà, alors, est-ce qu'on déboulonne la statue de Léopold II ? Est-ce qu'on met Tintin au Congo au feu ?
Tintin, oui.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, dans le sens où elle dit c'est pas ça qui va faire que ça va changer les choses, il faut vraiment sensibiliser, parler de ça, etc. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit.
Oui, c'est ça. Donc, il ne suffit pas seulement de brûler Tintin au Congo, mais c'est Tintin au Congo, je pense que c'est parmi les outils qui peuvent servir de réflexion. Donc, on se sert de Tintin au Congo qui a été fidèle dans la représentation à l'époque. Mais aujourd'hui, maintenant, on remet ça en question et voir comment changer les choses. Parce que si on veut changer les choses, c'est pas qu'on se voile la face et on se dit que tout est bon. Non, non, mais il faut rentrer dans l'histoire, puiser ce qu'a été l'histoire. Et à la fin, on saura qui on est aujourd'hui pour pouvoir nous projeter maintenant dans l'avenir et voir comment on va rendre les choses au mieux.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Martha et Betty viennent de dire. Donc, brûler, déboulonner, non, même si l'envie peut brûler, mais il faut contextualiser. Donc, pouvoir dire dans quel sang Léopold II a trempé, hein, ses mains qui n'étaient pas coupées. Dans quel contexte a été écrit Tintin au Congo ? Qu'est-ce que ça véhiculait ? Qu'est-ce que les gens pensent à cette époque-là des Noirs ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui ? Et comment faire, effectivement, pour rendre aux Noirs, à l'Africain, aux Congolais, ici, en l'occurrence, son humanité ? Et c'est pour tout, en fait, pour tout l'espace public, pour tous les clichés, je pense qu'il y a vraiment un système d'éducation qui doit se mettre en place. Garder les traces du passé, pour ne pas qu'on oublie et qu'on ne se dise pas que ça n'a jamais existé alors que c'est là. Mais éduquer tout le monde, même nous, hein, en tant que militants, on doit s'éduquer aussi à peut-être parfois être moins dans l'offensive et plus dans une forme d'empathie éducative. Mais c'est dur.
Oui, moi je rejoins HSO, pour moi il ne faut pas effacer les traces du passé, ça fait partie de notre histoire. Et justement il faut les garder, mais simplement les démystifier et ne pas les déifier. Mais dire voilà, ça s'est passé comme ça, ce sont des traces et maintenant on les travaille, tout à fait. Donc on ne nie pas l'affaire, quoi.
Voilà, on alors je vous propose pour...
Pardon. Ouais, je disais, on assume l'histoire et on voit comment progresser maintenant pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs.
Quand on dira non, ça n'a pas existé. Mais si, ça existait, là. Il y a encore le monument, là. Donc,
ouais. Et oui.
Il y a encore mon grand-père. Ah non,
il n'y a pas.
On va juste revenir 2 minutes sur Joséphine Baker avec cette fameuse question qu'on se posait au début. Est-elle une figure de résistance des Noirs ou d'émancipation de la femme noire ? Betty, tu as réalisé un vox pop à Goma.
Ouais,
en RDC.
Ouais, j'ai réalisé un vox pop et voilà, donc je vous laisse un peu découvrir ce que sont les avis des autres et des autres sur cette icône de la Renaissance africaine. Je veux dire, allez.
Connaissez-vous Joséphine Baker ?
Ben non, je ne le connais pas.
Une actrice française ?
Donc une idée. Il a joué dans quoi ? Peut-être que je le connais par les noms qu'il a joué dans un film, mais pas par son nom propre.
En tout cas, j'ai jamais entendu.
Non, je la connais pas. Connaissez-vous Joséphine Baker ?
Jamais entendu parler.
Ah bon ? Une actrice française ?
Non, jamais entendu parler.
Ben en fait, j'ai lu et juste écouté deux ou trois fois comme... Bon, pas vraiment grand-chose, je ne sais pas trop, tu vois. Parce que je ne me suis pas encore intéressé d'elle.
Non, donc vous entendez seulement le nom, mais vous ne savez pas qui c'est.
Vraiment.
Et vous avez entendu ces noms-là où ?
Ben en fait, c'est une fois à la radio, au Capi, et voilà. D'autres fois, c'est les activistes qui répétaient son nom, voilà, et tout.
Je vous dégoûte. Voilà. Ben voilà, donc en fait, bah, icône ou pas, du coup, là, en bref, Josephine Baker, icône.
Elle n'est pas vraiment connue à Goma. Et là, ce sont des jeunes, par exemple, plusieurs sont des jeunes réalisateurs.
Ah ouais.
Donc, qui ne les connaissent pas, malheureusement. Et y a des activistes. Bon, quelqu'un qui, comme vous l'avez entendu, quelqu'un qui dit j'aurais entendu parler de lui, mais je ne sais pas si en réalité il a déjà entendu parler d'elle. Voilà.
Voilà, Rokia, quand on lui parle de Josephine Baker en tant qu'icône, disait justement, elle cite plutôt Angela Davis, Christiane Taubira, James Baldwin ou encore Miles Davis, quoi. Voilà, qui sont communs, mais on parlait, qu'on n'a pas pu mettre, mais qui parlait des personnes qui ont plus pesé d'actes, finalement.
Bah, après, il y a acte et acte. Elle a posé des actes là où elle était, à son niveau. Elle s'est fait un nom, elle s'est fait une réputation. Elle a pu accomplir ce qu'elle avait accompli auprès des enfants qu'elle a adoptés. Donc, pour moi, elle reste une icône. Et je pense que parfois aussi, c'est à nous de trouver nos propres icônes et de voir en quoi elles peuvent nous influencer positivement. Parce qu'on a beaucoup tendance en Europe à regarder... En fait, l'Afrique regarde vers l'Europe et l'Europe vers les États-Unis. Donc, on prend nos icônes là-bas et on en fait des demi-dieux, comme Angela Davis, que j'adore. Mais après, je me dis, on a d'autres icônes qui nous ressemblent plus, qui sont plus accessibles, qui ont des parcours de vie qui nous...
Christiane Taubira que...
Voilà, par exemple. Non, c'est vrai qu'ils sont plus proches et dont on peut plus facilement assimiler les actes qu'elles ont posés. Donc, oui, pour moi, elle est une icône... De désobéissance même.
Moi, je suis assez partagée. Je trouve que son statut est un peu ambigu. Maintenant, peut-être qu'elle a été peut-être une icône, mais peut-être dans sa vie plus personnelle, alors moins médiatisée pour moi, en tout cas. Voilà.
Mais ambigu, pourquoi? Elle aurait été instrumentalisée?
Oui, c'est peut-être ce que je me dis. Elle véhicule une certaine image, je trouve, de la femme. Elle véhicule les clichés pour moi, d'une certaine manière. Et puis, comme tu dis, dans sa vie privée, elle a posé des actes en adoptant des enfants. Enfin voilà, c'était plus des actes concrets, mais qui, moi, dans sa vie, de spectacle en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle a été une révolutionnaire, en tout cas pour moi.
Bon, je ne partage pas tout à fait cela, parce que je me dis, en Afrique, il y a... Donc, pour moi, par exemple, Josephine Baker, c'est une icône, elle reste une icône, et c'est vraiment une héroïne. Une héroïne, parce qu'en Afrique, il y a plein de gens qui militent pour la libération de la femme, de la femme africaine, de l'homme africain, et il n'y a pas assez de monde qui sont connus. Et c'est à nous Africains, maintenant, aujourd'hui, si on commence à prendre cette conscience, maintenant, à voir comment on va faire connaître les actions de toutes ces personnes. Et là, ça me pousse un peu dans la pensée de Frantz Fanon, qui disait que chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dans les pays sous-développés, les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d'érosion poursuivi par le colonialisme et préparé le mûrissement de luttes actuelles. Il nous faut perdre l'habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l'action de nos pères ou de feindre l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité. Ils se sont battus comme ils pouvaient, avec les armes qu'ils possédaient. Alors, et si les échos de leur lutte n'ont pas retenti sur l'arène internationale, il faut en voir la raison moins dans l'absence d'héroïsme que dans une situation internationale fondamentalement différente. Il a fallu que plus d'un colonisé dise « ça ne peut plus durer ». Il a fallu que plus d'une tribu se rébelle. Il a fallu plus d'une Jacquerie matée, plus d'une manifestation réprimée pour que nous puissions aujourd'hui tenir tête avec cette certitude dans la victoire. Donc, il y a, tout comme Josephine Baker, il y a plusieurs personnes qui se sont battues pour qu'on arrive là où on est. Et on ne doit pas négliger les efforts qu'ils ont fournis. Et c'est à nous maintenant, de, même s'ils ne sont pas connus, de voir comment les immortaliser et les faire découvrir par cette génération dans laquelle on est.